Jacques-Aurélien Marcirot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Edmond de Rothschild Asset Management. On va parler avec vous de technologie, de big data, d'objets connectés. C'est vrai qu'on peut en voir de plus en plus. On parle de cette transformation numérique. On ne sait pas forcément que couvre cet univers en bourse. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous y intéresser, justement?
Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à cet univers, c'est clairement le potentiel de création de valeur qui a été démontré par les acteurs qu'on appelle les FANG ou les GAFA au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que ces acteurs qui sont nés avec Internet et dans lequel on peut tout mesurer d'entrée de jeu, hein, combien de temps vous passez sur le site, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous le faites, est-ce que vous concrétisez l'achat. Ces acteurs-là ont appris à mesurer et à utiliser la data de manière très efficace et de manière abondante. On crée beaucoup de valeur, hein. Google, Facebook, 1 000 milliards de capitalisation boursière. Et ces deux acteurs ne créent rien concrètement, ils ne font qu'organiser l'information créée par d'autres. Donc ça, c'était l'exemple qui m'a donné envie de m'intéresser au potentiel de création de valeur grâce à la donnée dans tous les secteurs d'activité et non pas qu'au niveau de l'Internet.
Justement, c'est peut-être ça l'enjeu, c'est que les consommateurs, effectivement, laissent des traces un peu partout. Je dirais qu'ils disent, qu'ils likent effectivement sur Facebook, qu'ils fassent d'autres commentaires à tel ou tel endroit. Mais la complexité de la chose, c'est que ça peut être mobile, ça peut être sur un site internet, ça peut même être dans un magasin à la limite. Donc c'est très varié.
Tout à fait. La donnée, elle est explosive. Donc, on parle de croissance de 40-50% par an des données générées et elle est multiformat. C'est pour ça qu'on parle de big data et dans le big data, il y a 3 V, volume, vélocité et variété. Et la variété, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est que c'est souvent des formats différents qu'il faut réconcilier et ça, c'est vraiment là-dessus que les dernières avancées technologiques ont permis de réconcilier ces données et surtout de les exploiter à l'échelle. Il faut juste se resituer de 10 ans auparavant, une bonne base de données, c'est une base de données qui contenait que le strict minimum. Parce que l'information coûtait cher à stocker, coûtait cher à récupérer. Donc il fallait minimiser. Alors qu'aujourd'hui, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, il faut récupérer le plus d'informations possible parce qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui ce qu'on va pouvoir en tirer demain.
Donc ça veut dire ces fameux data centers qui pullulent ici ou là aux États-Unis et dans d'autres pays pour justement recueillir ces données. Il y a les grands groupes qui ont lancé effectivement beaucoup d'investissements là-dedans.
Tout à fait.
Comme quand on regarde donc cet univers, il y a quand même cette variété. Du coup, comment on va trier dans toutes ces valeurs? Parce qu'il y en a qui peuvent être spécialistes de la donnée, mais ou des objets connectés, d'autres sur d'autres segments. Comment on analyse ça?
Alors, je pense que la meilleure manière d'analyser ça, c'est de répartir vraiment les acteurs en 2 grandes catégories. D'un côté, vous avez ceux qui fournissent la technologie. Donc, clairement, vous avez des sociétés qui fournissent les technologies de base de données de nouvelle génération, qui vont fournir les capteurs de nouvelle génération, qui vont fournir les architectures de calcul pour justement interpréter cette donnée. Donc, ceux-là, à la rigueur, c'est les suspects les plus faciles à identifier. Et certains s'introduisent en bourse régulièrement car c'est la nouvelle génération qui arrive. Mais l'autre côté, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas forcément le capteur qui a le plus important, c'est surtout ce que vous allez faire avec la donnée récupérée par le capteur. Et là-dessus, ce capteur, il peut être utilisé dans le domaine de l'assurance, il peut être utilisé dans le domaine de la santé, il peut être utilisé dans le domaine de l'automobile. Et c'est vraiment dans ces segments-là, c'est finalement ce que vous faites avec la donnée qui compte. J'utilise souvent une métaphore, c'est celle de la ruée vers l'or. On dit souvent en finance que pendant la ruée vers l'or, il n'y a que ceux qui vendaient des pelles et des pioches qui ont gagné de l'argent. Mais là, on est dans un cadre un peu différent. Vous avez en effet ceux que je viens d'évoquer qui vendent les pelles et les pioches. Les Google, les Hortonworks, tous ces acteurs-là, les Criteo. Et vous avez ceux qui sont assis sur la montagne de données, qui ont juste besoin de prendre conscience du fait qu'ils sont assis sur cette montagne de données et d'acheter des pelles, des pioches et de se mettre au travail. Et ceux-là nous intéressent tout particulièrement parce qu'on considère qu'ils peuvent créer de la valeur au-delà de juste leur dynamique sectorielle classique.
Oui, parce que l'autre facteur aussi qu'on doit prendre en compte, c'est l'évolution technologique très rapide des acteurs qui peuvent être au firmament, on va dire, à un moment donné, peuvent être dépassés par une petite entreprise qui arrive, qui justement aura peut-être cette technologie qui n'existait pas à l'instant T et qui, donc, tous les acteurs vont avoir besoin.
Exactement. Et si vous prenez l'exemple, si vous entendez un acteur classique dans l'assurance ou autre qui dit qu'il a terminé sa transformation digitale, méfiez-vous parce que la transformation digitale, c'est quelque chose de permanent. C'est pas quelque chose qu'on termine. C'est comme si Nokia, en 2007, quand le BlackBerry était le smartphone qu'ils vendaient le plus au monde, disait, ça y est, on a terminé la transformation de la mobilité. C'est pas vrai. Le secteur technologique nous apprend que les choses vont très vite et qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et dans les secteurs traditionnels, l'accélération de l'innovation leur fait aussi prendre conscience qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours voir comment est-ce qu'on peut innover, notamment dans l'exploitation de la donnée.
Un secteur qui est assez emblématique, qu'on voit bien se transformer, c'est l'automobile, où on voit cette technologie au cœur d'un petit véhicule aujourd'hui, cette connexion des véhicules. L'automobile, ça veut dire qu'on va là aussi distinguer les acteurs qui ont su capter là où il va y avoir peut-être plus de valeur dans les prochaines années.
Exactement. Donc l'automobile, c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il y a aussi une question de vélocité avec laquelle l'innovation va se diffuser. Parce que peut-être que les voitures autonomes sont déjà, on va dire, fiables aujourd'hui, raisonnablement, en tout cas celles de Google le sont, mais le cadre réglementaire n'est pas prêt. Il y a encore beaucoup d'incertitudes à régler avant. Donc être prêt trop vite, ça peut être une erreur, comme être prêt trop tard. Vous voyez, il y a toujours la peur du moment Jean-Marie Messier. C'est ce que je dis, c'est Jean-Marie Messier avait raison, mais 10 ans trop tôt sur la question de la convergence. Et ça peut être une erreur en termes de stratégie d'entreprise ou d'investissement. Donc les acteurs automobiles doivent se positionner, les fabricants. Mais il y a aussi tout le potentiel de création de valeur dans les capteurs et dans la couche logicielle cartographique. Car clairement, si aujourd'hui une automobile, c'est 80% de la mécanique, 20% du logiciel, il est fort probable que dans les 10 prochaines années, on inverse ce ratio et que ce soit la partie logicielle qui ait la plus forte valeur ajoutée. D'où l'importance pour les acteurs traditionnels de se positionner et d'investir sur cette thématique.
Un autre secteur dont on parle beaucoup aussi, c'est la santé. Là, avec de plus en plus de données, d'objets connectés aussi, ça pullule de plus en plus de services autour de la santé. Mais il y a aussi, on pense à la donnée, forcément.
Tout à fait. Et là-dessus, la donnée va pouvoir aider notamment dans plein de domaines du secteur de la santé. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est l'amélioration des diagnostics, y compris celui de votre médecin généraliste. Souvent, un médecin généraliste, il a peut-être au cours de sa vie l'expérience de plusieurs centaines de milliers de consultations, ce qui est bien, plus son background bien sûr universitaire qui est très fort. Mais demain, il pourrait être épaulé par des algorithmes qui, eux, auront l'historique de millions, voire de milliards de consultations dans le monde. Donc, ils pourront croiser les symptômes observés chez le patient avec cette base de données énorme qui permettra potentiellement d'améliorer la qualité des diagnostics. Donc, on ne va pas remplacer l'homme par la machine. L'homme va être assisté d'une machine. Et ainsi, si on baisse les erreurs de diagnostic de 5, 10, même 15%, c'est tout un système de santé qui va mieux se porter, avec des dépenses en moins, mais c'est aussi des patients qui vont mieux se porter avec une meilleure qualité de soins. Donc clairement, tout le monde va y gagner, et bien sûr, ceux qui vont fournir les systèmes experts pour interpréter la donnée.
Le mot de la fin en termes de valorisation, parce qu'on pense souvent à des sociétés technologiques, donc on se dit, oh là là, ça doit coûter cher. Est-ce qu'il y a quand même des opportunités d'investissement?
Alors le plus important, c'est de toujours rester discipliné sur deux points, la technologie et la valorisation. Si vous avez un doute sur les deux, il ne faut absolument pas y aller. L'exemple type, c'est une introduction en bourse qui va arriver dans les prochaines semaines, qui s'appelle Cloudera, donc spécialiste du big data qui fournit des infrastructures Hadoop. Cette société va s'introduire à 2 milliards de capitalisation boursière attendue, mais dans le private equity, c'était à 4 milliards. Pour une société qui croit quand même à 40-50%, c'est une très très belle société, mais par contre, ceux qui l'ont payé 4 milliards vont perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Et nous, c'est quelque chose auquel on est très sensible, c'est la valorisation, la qualité du business model.
Merci Jacques Aurélien Marcirot d'avoir été avec nous.
Merci à vous.